et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et bonjour, on se retrouve enfin pour la dernière partie de la série en 3 épisodes avec Sandrine Rouget. Je tenais à vous dire que j'ai adoré faire cet épisode. On a parlé énormément avec Sandrine pendant plus de 2h50, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant. J'espère que cette série vous aura autant intéressé que j'ai adoré partager ces moments avec Sandrine. Donc pour cette dernière partie... On va un petit peu plus loin sur l'hypersensibilité et le cas du haut potentiel avec des questions liées à la sexualité, à l'amour, à la communication, mais aussi à la grande question, est-ce que les gens neuroatypiques font peur aux autres ? Comment est-ce qu'on peut bien vivre en société avec cette façon d'être au monde ? Donc autant de questions que peut-être beaucoup de personnes se posent. Donc je vous souhaite une très très bonne écoute et surtout n'hésitez pas à nous faire vos retours à la suite de ces épisodes. C'est aussi hyper enrichissant de savoir ce que vous en aurez pensé. Ça m'interroge en fait, comment se passent généralement les relations amoureuses dans lesquelles une des personnes ou les deux personnes sont concernées par la haute potentialité ou l'hypersensibilité ?
Ah ouais, alors ça c'est le grand sujet. En réalité, c'est vraiment, hein, c'est le sujet qui anime beaucoup de profils atypiques. Et ben, en réalité, ça va dépendre déjà de quelle neuroatypie tu as et quelle histoire de vie tu as eue. Je vais m'expliquer un petit peu, parce que c'est un peu vague ce que je suis en train de te dire. Si on reprend les hypersensibles, un hypersensible, moi, il y a beaucoup de bienveillance hein, dans ce que je dis. Pour moi, c'est quelqu'un qui est, c'est comme une barbe à papa, mais au sens joli du terme, tu vois. C'est quelqu'un qui aime les gens, qui les accepte comme ils sont avec beaucoup d'ouverture d'esprit et qui est en quête de relations intenses, mais tant au niveau de la connexion corporelle qu'émotionnelle. Donc, ce sont des personnes qui vont être plus facilement attirées par des relations intenses et avec, dans lesquelles on va communiquer beaucoup. Si, en parallèle, ces profils ont un TDAH, ça peut être des personnes qui vont avoir du mal à vivre la routine dans le couple, qui peut survenir après les premiers mois de séduction, donc, ce qui peut poser quelques difficultés. Si on vient sur l'aspect haut potentiel, là, ce sont des personnes qui sont plus exigeantes en général et notamment en termes de stimulation intellectuelle. C'est-à-dire qu'on a constaté que chez un haut potentiel, l'attirance intellectuelle était au moins aussi importante, voire plus, que l'attirance physique. Elle est même prédominante chez un profil à dominante autistique, si tu veux. J'ai pu un peu l'évoquer tout à l'heure chez un autiste, notamment un syndrome d'Asperger. Moi, je parle surtout de cela parce que c'est ceux que je connais le mieux. Hein. Ça va être des partenaires qui sont très loyaux, qui ne mentent jamais, qui ont des aspirations de très très belles relations, si tu veux, mais qui peuvent aussi être très cash. Ils n'ont aucun jugement quand ils t'évoquent ce qu'ils pensent, mais ça peut être difficile à avaler ce qu'ils te disent, tu vois. En parallèle de ça, ce sont des personnes qui ont besoin de routine et qui sont en général dans un intérieur qui est très épuré, bien rangé et qui peuvent avoir des difficultés avec la cohabitation. Donc, une fois qu'on a expliqué tout ça, en fait, pour simplifier, si tu veux, tous ces profils-là sont des personnes qui tombent généralement amoureuses plutôt d'une âme que d'un genre humain. Donc, ils sont en quête de l'amour avec un grand A. Ils ont des aspirations qui sont elles-mêmes hors normes, si tu veux. Et ils sont prêts à envisager toutes les déclinaisons au quotidien possibles pour y arriver. Dans les déclinaisons, ça peut être le polyamour, envisager d'être amoureux et même marié, mais sans cohabiter ensemble. Enfin, ça donne plein de choses qui sont très atypiques. Après, eh ben, en fonction de ton histoire de vie, soit tu vas être tenté, soit et que tu connaisses ou pas ta neuroatypie, tu vas être plus spontanément attiré par quelqu'un qui te ressemble. Et ça peut être très très intense, mais ça peut être aussi très très fatigant si tu veux. Soit tu peux être aussi attiré par un profil qui va être plus, les autistes utilisent le terme neurotypique, tu vois, qui va être plus neurotypique. Mais je prends par exemple l'exemple d'un haut potentiel. Il peut aussi être attiré par quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, mais qui a un QI qui serait entre 100 et 110, si tu veux, et qui serait hyper facilitateur dans son quotidien parce que c'est quelqu'un qui va avoir envie de communiquer, de t'accueillir comme tu es avec tes particularités. Mais ça va être quelqu'un qui va être très apaisant aussi pour toi parce que il va t'expliquer le monde comme il fonctionne. Et ça, en fait, par exemple, un Asperger ou un potentiel, ça peut être vraiment un cadeau, si tu veux, de vivre avec quelqu'un comme ça. Donc, il n'y a pas de juste couple, si tu veux. Il n'y a pas, un peu comme pour tout le reste, si tu veux, il n'y a pas de solution miracle. Il y a celle qui fait qu'à un moment donné, ben, en tant qu'animal primaire, il y a tes phéromones qui ont accroché et qui ont envie de... Tu vois qu'il y a les papillons dans le ventre qui font que ah ben, c'est elle, c'est cette bonne personne, c'est cette personne-là avec qui j'ai envie d'envisager un bout de chemin ou une vie entière. Et il y a ta capacité à y aller ou pas et à lâcher prise, si tu veux, à ce moment-là.
Hyper intéressant, voilà. Hyper inspirant. Mais est-ce que du coup, quelque part, les personnes dites haut potentiel ou hypersensibles, est-ce que quelque part, elles font pas un peu peur à l'autre? Je pense notamment, par exemple, une femme qui serait haut potentiel ou qui serait hypersensible, étant donné que nous sommes quand même encore dans une société tripatriarcale, et que les femmes qui prennent de la place ou qui ont besoin de parler fort ou de dire les choses et qui pensent très vite, ça peut déranger peut-être. Surtout que quand on est un homme ou quand on est une femme un peu hypersensible ou au potentiel, on a tendance peut-être, enfin je dis on, mais bon bref, ces personnes-là ont tendance à se donner quand même entièrement. Oui. Et sans limite, est-ce que parfois ça peut pas risquer d'effrayer l'autre en fait par cette intensité?
Oui. Alors en fait, moi, c'est un sujet qui m'a rapidement interpellée, si tu veux, ce rapport de la femme atypique et comment elle pouvait s'intégrer dans la société. Et en fait, avec mon passé professionnel qui m'a mis sur la voie de la sociologie et de l'anthropologie, j'en suis rapidement arrivée à croiser les données, si tu veux. Et du coup, je suis arrivée à la conclusion que les profils neuroatypiques présentaient un féminin masculin au sens de yin-yang ou d'animus anima qui était plus développé que la majorité des gens. Donc, je m'explique. Et en ce sens-là, ce que tu évoques de la société dans laquelle on évolue et en France encore très patriarcale, même s'il y a eu de très belles évolutions, elle est vraiment importante. Donc, je m'explique. Une femme neuroatypique, notamment au potentiel ou Asperger, va avoir, même si elle a un physique qui peut être très féminin, cette posture, cette façon d'analyser les choses rapidement, de prendre des décisions, d'aller au bout des choses, de s'affirmer ou d'être très directe, qui en réalité relève de l'audace et du masculin dans ce que les gens peuvent en penser. Ce comportement-là va provoquer des comportements archaïques dont les gens n'ont pas conscience. Une femme de ce type-là, chez un homme, risque de provoquer ce qui se passe entre deux hommes de façon anthropologique, c'est-à-dire il se sent en compétition avec un autre homme, donc eh ben, il réagit. Donc il se met en action, si tu veux, il combat. C'est ça la réaction reptilienne, c'est pas vrai chez tous les hommes, mais on parle de grande masse là, si tu veux. Donc une femme qui n'a pas conscience de sa neuroatypie va provoquer chez un homme une mise en compétition immédiate. Or, elle ne comprend pas forcément pourquoi, et plus encore quand elle a le volet hypersensible des choses. C'est-à-dire qu'elle, elle fait de son mieux, elle n'a même pas conscience que ce qu'elle est en train de proposer est extrêmement pertinent ou une analyse très rapide des choses. Elle doute d'elle-même avec beaucoup d'humilité en général, et elle se retrouve en face de quelqu'un qui va venir l'agresser, voire la harceler, sans comprendre pourquoi. Quand tu mets des mots sur ton fonctionnement, quand tu comprends que, ben, effectivement, il y a une part de toi qui a été, non pas plus au sens de supérieur, mais peut-être plus rapide, tu vas reprendre ta part et tu peux comprendre que parfois, tu mets à mal ton supérieur ou ton collègue et qu'il y a peut-être d'autres façons d'aller gérer les choses. En ce sens-là, de mon point de vue, connaître ta neuroparticularité, c'est protecteur pour toi parce que ça te laisse le choix de décider de comment tu vas rentrer en interaction avec les autres plutôt que d'essayer de valider est-ce que c'est pertinent ce que tu dis, tu vois. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, à mon sens, hein, c'est dépend aussi de ce que tu as hérité de ton enfance et notamment avec tes parents ou ton éventuelle fratrie en matière relationnelle. Et là, il n'est pas du tout question chez moi de culpabiliser quiconque parce que je ne suis jamais là-dedans, je suis sans jugement, moi, mais de comprendre que si tu as vécu avec des parents qui étaient un peu bloqués eux-mêmes émotionnellement du fait de leur propre histoire, tu as pu te sentir développer ce que Lise Bourbeau appelle les blessures de rejet ou d'abandon qui vont générer chez toi, par exemple, une mise en relation à tendance fusionnelle ou avec un syndrome du sauveur. Dans d'autres cas, avec la blessure d'injustice ou de trahison, tu peux finir par adopter une conduite qui va être plutôt évitante ou un mélange des genres de ce qu'on appelle la posture relationnelle anxio-évitante, si tu veux. Dans ces cas-là, les relations sont plus difficiles. Mais si tu comprends à quoi c'est lié, si tu es OK si tu as envie de sortir de ce genre de relation parce que tu veux vivre quelque chose de différent, parce que parfois, bah, tu peux être dans des relations fusionnelles, mais l'autre partenaire est très content aussi, donc j'ai envie de dire tout va bien, tu vois, où les deux partenaires sont évitants et donc du coup, ça leur va très bien. Si tu ressens un inconfort, si tu en as marre de vivre tout le temps le même type de relation, alors en menant un travail d'introspection et en mettant le doigt et le nom sur ce qui a pu se passer, alors tu vas développer des comportements qui vont te permettre d'entrer en relation plus sereinement avec les autres. Et là, ça devient vraiment joli, si tu veux.
C'est positif quand même.
Donc, ah ouais, moi
apprenez à vous connaître parce que ça peut faire que vous en profitiez vraiment, quoi. Et du coup, dans la continuité de la question de la relation amoureuse, bah, j'ai trouvé tes propos hyper intéressants. Je souriais toute seule derrière mon micro. Voilà, bref, mais c'était hyper intéressant. Et donc, dans la continuité de la relation amoureuse, quid de la sexualité des personnes à haut potentiel ou hypersensibles ou TDAH? Est-ce que ça donne lieu à des sexualités hyper intenses, hyper... comment dire,
particulière,
voire même déviante entre guillemets par rapport à ce qui est admissible en société. Je sais pas, est-ce que il y a de ça?
Eh ben, écoute, moi tous ces aspects-là et même l'aspect précédent, je voudrais te rendre quand même ce qui t'appartient. J'ai quand même écouté beaucoup de tes podcasts. Et à chaque fois, en fait, alors qu'il n'y avait pas cette notion de haut potentiel mis en avant ou d'hypersensibilité, en fait, il y en a beaucoup qui m'ont beaucoup nourri, si tu veux. Voilà. Et donc, je voulais déjà te remercier pour ça. Et effectivement, tu as abordé cette notion de la sexualité, du transgenre et de bien d'autres encore à travers plusieurs de tes podcasts. Et effectivement, à mon sens, les profils atypiques grandissent, si tu veux, avec un sentiment plus ou moins conscient de décalage avec la norme. Donc, au fond d'eux, ils savent ce que c'est que le rejet. Ils le ressentent. Et donc, naturellement, par effet de guérison, si tu veux, ils en viennent à être généralement plus ouverts d'esprit que la moyenne des gens. Ça, c'est vrai pour tous les profils hyper neuroatypiques, que ce soit de l'hypersensibilité, du haut potentiel ou du syndrome d'Asperger, hein, tu peux en trouver qui sont vraiment très, très intéressés par la diversité et sans jugement. Forcément que la sexualité ne va pas échapper à cette règle-là. Du coup, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à chercher une connexion qui va plutôt relever de la connexion d'âme à âme. Je ne parle pas de spiritualité, mais c'est, si tu veux, ils connectent avec la personne en face d'eux, même si la spiritualité peut être très, très intéressante et intéresse beaucoup ces sujets-là. Mais là, dans notre propos, pour ne pas soulever de débat, si tu veux, ce genre de profil connecte d'humain à humain, indépendamment des codes sociaux ou du genre. Mais en fait, ils ont tendance à ne pas se préoccuper de l'âge de la personne en face ou de son genre plus spontanément. Donc du coup, on croise plus facilement des personnes qui vont être homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou qui vont privilégier la sapiosexualité, notamment chez les profils Asperger, chez les profils atypiques. Donc la sapiosexualité, c'est la capacité, si tu veux, à jouir notamment à partir d'échanges qui vont relever d'échanges intellectuels, si tu veux. C'est-à-dire que l'intensité intellectuelle avec laquelle l'autre te nourrit est capable de générer chez toi une jouissance qui relève presque de la jouissance sexuelle. Donc, c'est ça la sapiosexualité.
Ouais, et puis peut-être qu'on peut retrouver aussi, hormis ce qui est question de bisexualité ou d'homosexualité et tout, je pense qu'on peut aussi retrouver des... c'est une hypothèse, mais peut-être une recherche de stimulation assez intense dans les expériences. Enfin, je pense que je vais pas aller dans les détails, parce que, bref, mais c'est un peu bizarre de parler de ce sujet, mais en gros, je pense que ça va être des personnes qui vont quand même être assez... de par la curiosité, très ouvert d'esprit, qui vont vouloir aller... tester des choses, qui vont vouloir expérimenter des choses et aller découvrir différentes formes de sexualité sans forcément que ça soit finalement positif, ça peut être aussi une expérience négative, mais qui vont avoir peut-être la curiosité d'aller vivre les choses les plus intenses possibles. Et, et c'est pour ça que je repense à mon histoire d'addiction. Et je me dis que chez ces personnes-là qui ont ce besoin d'être stimulées, d'être stimulées dans tous les sens du terme, je m'interroge aussi sur la recherche de stimulation par des stupéfiants.
Ah oui.
Alcool, drogue, etc. C'était aussi ça que je pensais. Oui. Et c'est pour ça que je parlais aussi de la sexualité, parce que je me dis que, tu sais... tu vois, alors je, y a, il existe des lieux, par exemple, je sais pas, à Paris ou ailleurs, où les gens sont très très libérés, libertins, nanana. Et ouais. Je me demande, en fait, dans ces milieux-là, s'il n'y a pas justement une population un peu plus sujette à l'hypersensibilité ou à, tu vois, qui vont aller chercher des sensations fortes, qui vont aller je sais pas. Peut-être que je fais un mélange total, hein, je ne sais pas.
Alors, je pense qu'en fait, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que tu peux être un profil atypique et en fonction de ton tempérament, ton histoire de vie, avoir envie d'une relation plutôt conventionnelle, entre guillemets, et t'épanouir complètement là-dedans, tu vois. Ça, c'est possible. Tu peux aussi avoir un naturel plutôt audacieux et curieux et être tenté d'aller expérimenter au moins une fois les choses pour savoir ce qu'il en est. Ça, c'est une autre motivation. Tu peux aussi avoir tellement peur de la routine que tu es prêt à envisager toutes les solutions possibles pour préserver ton couple. Ça, ça peut être par exemple des modes de cohabitation originaux où chacun garderait son chez-soi, ou ça peut être aussi du polyamour. Et moi, j'ai envie de dire que tant que chacun est sincèrement OK avec ça, tant que les valeurs de liberté et de respect sont mises en avant et que tout le monde y trouve son compte, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est aussi vrai pour l'aspect libertin des choses. Là où c'est un peu différent, à mon sens, c'est quand il y a un psychotraumatisme qui est en jeu derrière, c'est-à-dire notamment des choses qui relèvent de l'inceste ou du viol. Excuse-moi. Dans ces cas-là, en fait, le stress post-traumatique qui est en jeu, et d'autant plus sur ces profils atypiques, va plus facilement générer des hyper-conduites à risque, comme de l'hypersexualité. Mais en réalité, quand on est dans ce genre de jeu-là, entre guillemets, ce qu'on cherche réellement à faire quelque part de façon plus ou moins consciente, hein, c'est de lutter contre un sentiment de vide intérieur, et c'est surtout ça, là, c'est que quelque part, il y a une souffrance. S'il y a une souffrance, là, ça mérite de se poser la question de savoir si on est au bon endroit, si tu veux, dans ce qu'on est en train de jouer. Voilà, c'est ça le distinguo entre les deux. Ouais.
Ouais, donc en fait, finalement, dans ces milieux-là, j'ai pas beaucoup lu sur le sujet, mais ça mériterait que je fasse un épisode dessus. Mais dans ces milieux-là, je me dis qu'effectivement, tu peux à la fois avoir des profils de gens qui sont dans un besoin de stimulation, de découverte, de curiosité, d'audace, etc. Et tu peux aussi peut-être trouver des gens qui finalement ont vécu des traumatismes et qui, par la recherche de sensations fortes, viennent étouffer un peu les douleurs qui n'ont pas été solutionnées par la recherche de sensations extrêmes, de prise de drogue, d'alcoolisation à l'extrême, etc. Mais c'est hyper intéressant. Franchement, c'est des sujets... plus je fais des sujets, d'épisodes, plus j'avance dans la vie, où je découvre des choses, où tu rencontres des personnes qui ont différentes façons de voir le monde, plus il y a des sujets comme ça qui me... ça m'intéresse trop. Donc, il faut que je creuse ce sujet-là.
Moi, j'avoue vraiment que la neuroatypie dans son ensemble et le lien avec les psychotraumatismes et leurs effets, c'est vraiment ce qui me caractérise, dans le sens où c'est ce qui me passionne, tu vois. C'est vraiment ma capacité à mettre en regard les deux sujets, je pense, qui je suis, si tu veux. Et c'est vraiment ça qui m'anime. Et par tous les aspects possibles, et avec toujours cette donnée d'entrée qui est pas de jugement. Et je trouve que le monde tel qu'il évolue et la capacité de résilience et de survie des gens avec ce qu'ils mettent en œuvre, c'est vraiment passionnant, quoi.
Et du coup, je dévie un peu, mais enfin, je fais une déviance, entre guillemets, un lien avec ton précédent livre sur la perversion narcissique. Est-ce qu'on pourrait dire que, en tant que haut potentiel, hypersensible, TDAH, etc., est-ce que ces personnes-là ont plus de risques de tomber sur des pervers narcissiques?
Ah oui, ça c'est un vrai sujet, et c'est comme ça que moi je suis arrivée à ce livre-là, hein. C'est que vraiment j'avais de plus en plus de personnes qui me parlaient de leur relation toxique, et ça m'a vraiment interpellée. Et du coup, alors attends, comment répondre à ta question ? En fait, toute personne qui a une faille, généralement en lien avec un psychotraumatisme ou une parentalité dysfonctionnelle, court le risque de tomber dans une relation toxique à un moment ou un autre. Mais chez les profils neuroatypiques, ce genre de relation a des répercussions qui sont particulières. Donc, ce qu'on avait fait comme précision la dernière fois, je vais le refaire ici, hein, je vais parler de PN et de victime, mais en réalité, si je voulais être précise, c'est la relation qui est toxique. Voilà, mais c'est quand même plus simple pour nous de parler comme ça. En fait, un PN est quelqu'un qui va être mieux outillé que la majorité des gens pour identifier les failles chez sa victime. Et quand il est en plus intelligent, il va savoir manier le verbe avec beaucoup d'agilité. Et enfin, ce sont des personnes qui savent mentir sans aucune culpabilité. Donc, comme il n'y a pas la culpabilité, il n'y a pas au niveau corporel ou très peu des manifestations qu'un hypersensible ou un haut potentiel pourrait capter. Comme par exemple cette accélération du pouls ou cette circulation du sang qui va être plus rapide. De ce fait-là, si tu veux, une victime hypersensible ou au potentiel, ou alors d'ailleurs avec des traits autistiques, ne va pas capter le mensonge chez l'autre tel qu'elle devrait le cerner habituellement. C'est d'autant plus vrai, si tu veux, que tu as beau être outillé de toutes les particularités, donc être plutôt à dominante très haut potentiel, quand toi-même tu es impliqué émotionnellement, ce que tu es capable de faire pour les autres, c'est d'avoir décrypté tous les mécanismes psychologiques, dire comment la personne fonctionne, etc. Quand toi tu es impliqué émotionnellement, ça bug, donc ça ne marche pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc du coup, si on reprend, ces victimes-là sont des personnes qui vont être naturellement candides et empathiques et qui ne vont pas du tout envisager que leur partenaire est en train de mentir ou de chercher à les abîmer. Elles vont toujours chercher en elles les raisons des comportements de leur amoureux ou de leur amoureuse. De ce fait-là, ce sont des personnes qui peuvent aller très très loin dans le fait de s'abîmer, c'est-à-dire qu'elles vont rester plus longtemps avec ces personnes-là, qui t'a taquiné dangereusement le burn-out ou le trouble anxieux jusqu'à avoir envie de se foutre en l'air, si tu veux. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce sont aussi des personnes qui vont être mieux outillées que les autres pour voir les cycles qui se répètent sur la durée. C'est-à-dire, à un moment donné, elles vont comprendre que ce qui se joue, en fait, toutes les explications qu'elles avaient pu mettre en œuvre, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et donc, dans ces cas-là, elles ont une capacité à ouvrir les yeux sur la réalité de leur partenaire qui est beaucoup plus grande et salvatrice que les autres. Et donc, du coup, elles ont plus de chances que les autres de se défaire de la relation, de s'en éloigner et aussi après de travailler le stress psycho-narcissique tel que je l'ai appelé qui en découle et donc, du coup, de guérir de ce genre de relation.
Ok, donc à la fois une plus grande sensibilité, enfin…
Ouais, fragilité.
Fragilité à tomber parce qu'on est empathique, parce qu'on est bienveillant, ouais. Parce que du coup, on ne voit pas le piège, etc. Et en même temps, d'un autre côté, si jamais on connaît ses spécificités, une plus grande force pour être capable justement de déjouer le truc et d'éviter le pire et de savoir se retourner vers les bonnes personnes. Donc, plutôt ça, positif finalement.
Oui, ça et en fait, le secret, le secret, c'est que quel que soit le profil, tant qu'il est connecté, bien connecté, cœur-corps-mental, en réalité, son instinct lui dit « Ouh là là, la personne en face de toi, c'est pas quelqu'un de bien. » Tu vois, il y a quelque chose de protecteur là-dedans. Le problème, c'est que si dans ton enfance, à travers ce que tu as vécu, tu as fini par bloquer un peu tes émotions, un peu ou beaucoup tes émotions et tes ressentis pour basculer en tout mental, ce qui est aussi vrai chez les profils autistiques, si tu veux, là, il y a plus de risques à pas pouvoir utiliser cet instinct-là. Mais dans ces cas-là, avoir une sorte de check-up dans sa tête, même si ce n'est pas révélateur et que l'objectif n'est pas d'être dans l'hypervigilance permanente, si tu veux, ça peut être protecteur.
Ok. Ça me fait penser un peu à… C'est ça. Enfin, souvent, c'est sur les réseaux sociaux, tu vois passer des conseils, pas de couple, mais faites attention aux red flags, tu vois, genre, comme s'il y avait des drapeaux rouges ou des drapeaux verts quand tu rencontres quelqu'un.
Ouais.
En vrai, c'est pas toujours évident de brandir tout de suite parce qu'il a dit ça, c'est forcément un red flag ou pas. Enfin,
c'est ça.
Je suis pas toujours très raccord avec ce qui se dit. Je trouve qu'il y a, faut aussi prendre les gens comme ils sont, avec leurs différences, avec leur passé, etc. T'as des gens qui vont dire spontanément des choses qui pensent pas forcément ou qui vont être maladroits dans leurs mots et c'est pas pour autant des personnes forcément nocives, etc.
Oui, en fait, je pense que c'est vraiment important ce que tu dis là. C'est-à-dire que donc ça, je suis en train de travailler sur un livre qui sera sur les relations et les profils neuroatypiques. Ah. Voilà, ça me prend un peu de temps à chaque fois, mais je vais y arriver. Et en fait, je pense que c'est... Enfin, tout dépend aussi de quelle est ton intention dans une relation. Donc là encore, je définis, tu vois, les choses. Pour moi, entrer en relation avec l'autre, ça implique d'avoir envie de donner autant que de recevoir. C'est un sacré défi, si tu veux, que d'en arriver à ce stade-là. Avoir envie de vivre ce genre de relation-là, ça suppose quelque part d'être au clair avec tes vulnérabilités et de les assumer complètement. Parfois, quand tu as vécu des choses difficiles, comme une relation nocive ou des déceptions amoureuses sans que ce soit forcément nocif, tu peux être dans quelque chose qui est encore de l'ordre de la cicatrisation où tu peux avoir envie de te réparer. Donc, t'en as pas forcément conscience. Tu vois, si t'es dans un syndrome du sauveur, par exemple, depuis tout petit, tu peux avoir tendance à... Tu peux croire que t'es toujours en train de donner alors qu'en fait, quelque part, tu cherches surtout une réponse qui est de la réassurance permanente. Et ça, c'est épuisant pour l'autre si tu n'en as pas conscience, tu vois. Si tu es tout le temps dans l'hypervigilance et que du coup, tu n'oses pas montrer ta vulnérabilité, comment est-ce que tu vas pouvoir rentrer vraiment en réciprocité, en belle réciprocité avec l'autre? C'est un peu difficile, puis ça peut être fatigant pour l'autre, tu vois, s'il est testé en permanence. Mais si tu es au clair avec le fait que tu es en train de guérir et que tu es OK pour travailler sur toi et que tu es OK pour partager un peu de ta vulnérabilité sans tout mettre sur la table parce que ça, c'est dangereux, tu vois. Mais petit à petit, de partager tes vulnérabilités, de quand il y a quelque chose qui t'a fait douter ou quoi, de gentiment, mais par contre fermement, dire là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai ressenti ça quand tu as fait ça. Est-ce que c'est ça que tu voulais me dire ou pas? Tu vois, sans être dans l'hyper-communication permanente, mais juste sur des sujets importants. Si tu es OK pour... avancer petit à petit, mais alors là, ça devient vraiment joli, quoi, tu vois.
Ok. Ah, franchement, j'ai trop hâte de savoir quand elle ressortira, parce qu'à mon avis, ça va être trop, trop intéressant. Il faudra qu'on fasse un podcast, du coup.
C'est ça.
En tout cas, hyper clair. Est-ce que si tu avais un ou plusieurs messages à transmettre sur ce thème aux personnes qui nous écoutent, qui sont ou non concernées d'ailleurs, est-ce que tu as un mot
Ah oui, écoute, alors moi c'est sûr que ma posture c'est que je suis quelqu'un de profondément optimiste, tu vois, je suis du genre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein. Ça c'est sûr que c'est ma posture si tu veux. Donc j'aurais envie de dire que en fait on ne choisit pas de naître avec une neuroatypie, en tout cas si on met de côté l'aspect karmique, hein, qui peut être très intéressant mais qu'on n'est pas en train d'explorer là dans ce qu'on se dit ensemble. Quelque part, si nier cet aspect-là de sa personnalité, je pense que ça ne sert à rien, car au final elle fait partie de qui on est au même type que tout le reste, et donc du coup elle fait partie de son puzzle de personnalité, si tu veux. Si on le met de côté, ça peut générer un sentiment de solitude très particulier dans une société qui est par nature grégaire. Alors que si on l'intègre à sa personnalité, ou si on comprend parmi ses proches qu'il y a quelqu'un qui est concerné par un de ces termes-là, l'idée, c'est pas de venir tout excuser sous ce biais-là, mais de comprendre qu'il peut avoir certains comportements ou malentendus qui relèvent de ça. Mais quand, en parallèle, en fait, ces personnes ont des dons incroyables, à commencer par cette capacité à vivre les choses de façon soit très pure, soit très intense, et à cheminer en permanence pour donner un sens à sa vie sur Terre. Et pour moi, honnêtement, c'est un des plus jolis cadeaux de la neuroatypie, que cette faculté-là.
Ouais, j'aime beaucoup tes mots. Ça me fait tout bizarre. C'est trop beau ce que tu dis parce que c'est vrai en fait. Enfin, je pense sincèrement que les personnes qui nous écoutent, si vous êtes concernées par une neuroatypie, en fait, c'est une force, c'est un cadeau. C'est pas forcément toujours facile, c'est pas toujours forcément évident parce que parfois on n'a pas les codes ou on comprend mal les choses, parfois on se sent pas compris, parfois on angoisse beaucoup, parfois on doute. Et en même temps, quand on vit les choses de manière, enfin, quand on vit des choses positives, on les vit à 4000%. C'est tellement enivrant, c'est chouette, enfin, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, je trouve que c'est une belle conclusion que tu apportes là.
Oui.
Je te remercie beaucoup pour toutes ces explications hyper poussées. Je ne sais pas encore combien, peut-être qu'il y aura 2-3 parties parce que comme ça se déguste par petits bouts et c'est il y a plus de suspense. C'est surtout que c'est on a abordé quand même pas mal de sujets très différents, même si c'est normal parce que c'est un sujet qui est hyper vaste, qui est hyper compliqué, qui ne met pas tout le monde d'accord, même les professionnels de la santé entre eux.
Ouais.
Et il y a beaucoup de débats sur le sujet, on entend de tout et son contraire. Et en plus de ça, on est dans une... aussi aujourd'hui, et c'est ça qui fait me méfier aussi, sur lequel j'aimerais peut-être faire un... enfin, poser un mot, c'est qu'aussi on est dans une... aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu as de plus en plus de personnes qui se autoproclament coach en la matière. Et moi, ça me hérisse les poils. Vous savez très bien que vous avez déjà entendu des podcasts. Il y a des déviances partout. Et il y a des gens qui se font de l'argent aussi sur les fragilités des gens. Voilà, si vous êtes en plus sensible et que vous vous posez des questions sur pourquoi vous fonctionnez comme ci, comme ça, etc., faites attention sur qui vous tombez, sur ce que vous demandent les personnes qui vous proposent de vous accompagner. Parce que je pense que tu es d'accord avec moi, mais on voit souvent des déviances là-dedans, des coachs qui on ne sait pas ce qu'ils ont fait, et puis ils prennent très cher pour on ne sait pas trop quoi, et ça c'est un peu dangereux, donc peut-être dire voilà, faites-vous confiance, essayez de trouver des ressources comme des podcasts, comme des livres, etc., sur lesquels vous pouvez à la fin vous dire est-ce que je suis ok avec ce qui a été dit, est-ce que je ne suis pas ok, et est-ce que ça fait écho. Pour voilà, essayer de faire le tri aussi entre toutes les informations qu'on reçoit.
Oui, en fait, moi, je pense qu'il y a deux aspects. Tu sais, le premier, c'est que à chaque fois, en tant que patient ou personne suivie, si tu veux, je pense que tu as le devoir d'aller vérifier au niveau instinctif ou mental si la personne avec qui tu viens d'échanger, ce que ça a provoqué chez toi, c'était OK ou pas. Et ça, c'est vraiment majeur comme critère, tu vois. Si ça a généré chez toi de l'inconfort, mais pas un inconfort qui est stimulant, tu vois, tu te dis « Ah ouais, là, il va falloir bosser, mais je sens que c'est juste », mais plutôt un peu de la gêne, de la peur ou quelque chose de gluant, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si le profil en face de toi a une posture qui cherche à établir une sorte de domination avec toi, c'est-à-dire le tout-sachant qui sait tout et qui va te guérir de tout, je pense qu'il faut mettre des grosses guillemets, tu vois. Il faut vraiment faire attention à ça. En parallèle de ça, par contre, il y a des profils, si tu veux, qui ont, les profils au potentiel ont une hyper-capacité à développer leurs compétences en autodidacte, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est vrai, c'est juste et il faut faire attention. Mais c'est aussi une remarque que moi, je peux essuyer si tu veux et que j'ai déjà reçue. Je ne suis pas neurologue, je ne suis pas psychologue. Donc, quelque part, je suis qui pour écrire mes livres, si tu veux. Mais moi, je suis très à l'aise avec ça dans le sens où j'engage en permanence les gens qui lisent mes livres à se poser eux-mêmes la question de savoir si ce que je propose ou ce que je dis est juste, fait sens pour eux ou si ça leur semble déraisonnable, tu vois. En ce sens-là, cette humilité-là ou en tout cas tentative de dire mais là en fait j'en suis où j'en suis aujourd'hui et peut-être que demain on aura d'autres éléments qui nous donneront d'autres éclairages, mais en posant tout ça dans un livre, et ça nous donne une nouvelle marche d'escalier sur laquelle monter. en ayant, si tu veux, cette posture qui ne cherche pas à dominer les autres, il y a quelque chose de l'ordre de la réciprocité. Et je pense que c'est ça le curseur, tu vois, sur lesquels les gens doivent tabler. C'est s'il y a une tentative de réciprocité entre les deux, alors ça peut être très juste. S'il y a une tentative d'hyper-domination un peu en mode gourou, peut-être que là, il faut se poser des questions, à moins que ce soit quelque chose qui vienne répondre à ta faille du moment, et auquel cas, c'est OK pour toi, tu vois, il n'y a pas de jugement de ma part, quoi.
Mmh. Hyper intéressant, je suis complètement alignée avec ce que tu dis. Mmh. Et c'est aussi pour ça que je te fais totalement confiance et que je suis hyper heureuse et hyper fière de te recevoir sur ce podcast. C'est parce que je sais que tu as cette bienveillance et que tu as cette capacité à dire que ce que tu dis ne va pas forcément faire écho à tout le monde, et c'est OK, en fait. Ça touchera les personnes que ça doit toucher, et aussi parce que tu n'es peut-être pas psychiatre, mais tu as vécu en fait tous ces sujets-là, et tu les as tellement creusés qu'en fait tu es probablement plus experte dans le domaine que bien des professionnels de santé, parce que parfois les gens qui ont eux-mêmes vécu des choses, des traumatismes, etc., ont tellement dû creuser le sujet pour eux-mêmes qu'ils en deviennent experts en fait sur le sujet.
Oui,
je pense que c'est important de le dire aussi.
Oui, mais Freud disait ça. Hein. Freud disait que pour être un bon thérapeute, il fallait avoir vécu soi-même et être allé au fond de l'abîme et en être ressorti, tu vois. Quelque chose de cet ordre-là. J'ai pas la phrase exacte, mais je pense que ma force à moi, elle est là. C'est, si tu veux, moi, quand j'écris mes livres, je cherche, ou quand je fais mes accompagnements et mes bilans, ce qui m'a le plus touchée, en fait, ce sont les doutes. D'où viennent ces doutes? Et comment on peut y répondre? Et quels sont... les éléments, les mots, les sujets de recherche, les livres, les conférences ou les podcasts qui m'ont permis de cheminer. C'est ça ma force, si tu veux. Tu vois, c'est que ces mots-là m'ont donné matière à. Honnêtement, moi, si j'avais pu rencontrer des professionnels qui maîtrisaient la totalité des sujets et qui avaient pu me prendre dans ma multi-complexité personnelle, si tu veux, ça aurait été super. Ma chance, c'est que ben, comme je n'ai pas rencontré cette personne-là, en tout cas pas au bon moment, parce que je dirais que Fabrice Michaud est quelqu'un qui maîtrise quand même maintenant tous ces sujets-là, j'ai été obligée d'aller chercher moi-même ces informations. Mais du coup, eh ben, c'est ce qui fait que je peux être auteur aujourd'hui, donc c'est un cadeau, si tu veux. Voilà.
Ouais. Bah, super conclusion, j'adore. écoute, je te suis très reconnaissante pour ces échanges très riches qui m'ont fait beaucoup cogiter. Donc, je pense que je vais encore cogiter pendant 3 jours là, après nos échanges, parce que ça va, ça va faire écho à plein de trucs, et du coup, c'est trop chouette. J'invite toutes les personnes qui nous ont écoutées, si elles ont envie d'aller plus loin sur le sujet, de ne pas hésiter à consulter ton livre ou tes anciens livres, si ça peut intéresser sur le côté perversion narcissique. Et puis, évidemment, si vous avez des retours à nous faire, des questions à poser, sur peut-être des précisions à apporter, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram ou à laisser un commentaire sous la publication du post. On y répondra avec grand plaisir. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Je te remercie vraiment beaucoup, Sandrine, d'être venue. Si tu as un dernier mot à dire, c'est à ton tour.
Ouais, moi, en fait, je te remercie aussi parce que c'est parce que tu crées cet endroit dans lequel je me sens si à l'aise, tu vois, si légitime à pouvoir expliquer ou exprimer ce que je ressens ou ce que je peux penser, qu'on en arrive à ce niveau-là d'échange, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très pudique, c'est pour ça que je communique très, très peu dans les journaux, sur les réseaux ou autres. Et pour autant, dès la sortie de mon livre, j'ai été emballée à l'idée de revenir parler avec toi de ce sujet-là, parce que je me sens très, très à l'aise ici. Donc, merci beaucoup pour ça, quoi.
Oh, merci. Ça me touche. Ouais, c'est vraiment, ça me tient à cœur de faire que les gens se sentent bien, tu vois, qu'on parle. Et en fait, c'était toujours cette curiosité de découvrir l'autre et de ne pas avoir de jugement, en fait, et d'écouter avec bienveillance et d'apprendre l'une l'autre de ce qu'on peut apporter. Donc, c'est trop bien. Je vous souhaite à tous de trouver des safe places comme ça, où vous pouvez vous exprimer librement et en avoir rien à faire de ce que les gens pourront penser. Et c'est si ça parle à certains, bah, tant mieux. Et puis, il y a d'autres, bah, tant pis, c'est pas grave. Donc, très, très chouette. Bah, je vous souhaite à tous et à toutes une très, très belle journée. Si vous êtes dans le métro ou en rentrant du travail, si vous êtes au sport, si vous êtes en famille tout seul dans votre salle de bain, votre cuisine, etc., peu importe. Je vous souhaite de passer une très belle journée avec toutes vos différences. Vous êtes très beau, très belle. Mmh. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu, mais parlez fort beaucoup.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.